Qui d'entre nous est né entre 1981 et 1995 inclus?
Allez, allez, allez.
Dans cette salle, nous sommes les représentants de la génération Y, The White Generation. Nous devons avouer ce matin que nous avons un problème. Ah si, 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 on doit l'avouer aux autres. Même si la génération de nos parents est probablement déjà au courant. Nous avons un problème avec l'obéissance. D'après ce qu'on en lit sur Internet, nous voulons comprendre avant d'obéir. Bien sûr, il faut aller au-delà de cette catégorisation simpliste. Nous sommes tous différents et je vous laisse vous faire votre propre avis sur votre style d'obéissance, sur votre promptitude au respect de l'autorité. Ce matin, nous allons parler d'obéissance à Dieu. Et que vous ayez besoin de comprendre, avant d'obéir, de lui obéir ou non, les textes que nous allons lire vous apporteront de quoi réfléchir sur le sujet. Dans le déroulé de mon message, on va voir trois textes différents. On commencera par lire comment l'Éternel parle de l'obéissance au peuple hébreu dans le Deutéronome. Après avoir regardé ce texte, on prendra un récit particulier d'un acte d'obéissance dans le livre de Daniel, puis on laissera à ce moment-là l'Ancien Testament de côté pour voir ce que Paul en dit aux chrétiens de Rome. Nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, et ce sont les 14 premiers versets. Je vais le lire et je vous invite à suivre les bénédictions à l'écran. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous lui obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de Dieu, de l'Éternel, votre Dieu, pardon, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint, pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous un trésor, son bon trésor céleste, pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Et voici cinq grandes type de bénédiction qu'on a dans ce passage, avec des redites. Comment est-ce que vous recevez ces bénédictions? Est-ce qu'elles ne vous donneraient pas envie d'obéir à Dieu sur le champ? Par contre, avant que vous preniez de nouvelles bonnes résolutions, ce qui serait très bien, je vais vous prévenir d'un petit détail. Ces bénédictions, aussi belles soient-elles, ne sont pas pour nous. Même s'il est vrai qu'il y a une certaine continuité entre le peuple hébreu et le peuple chrétien, il serait malhonnête de chercher une interprétation de ces bénédictions terrestres dans des bénédictions célestes qui seraient promises du coup par Jésus-Christ. Ce qui nous est présenté ici, c'est la dignité nationale d'Israël, sa prospérité, sa gloire fondée sur sa capacité à appliquer les commandements divins. Les bénédictions sont purement terrestres. Dieu promet la supériorité d'Israël sur les autres peuples. Il promet la fertilité, la richesse, l'abondance. Il promet la protection. Je ne rentre pas dans les détails de toutes ces bénédictions. De toute façon, elles ne sont pas pour nous. Regardons seulement deux versets. Verset 10. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. Et verset 13. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Ces deux versets apportent un message supplémentaire au-delà des récompenses de l'obéissance. Quelle est l'idée dont parle ici le Seigneur ? Avez-vous vu qu'il est mention de témoignage? Tous les peuples verront que l'Éternel bénit Israël. Je ne pense pas que l'Éternel cherche à ce que Israël puisse narguer ses voisins. Ce serait contraire à la personnalité de Dieu. C'est par son peuple que l'Éternel veut témoigner de qui il est aux autres peuples. Depuis Abraham, le peuple hébreu a été choisi par Dieu. Par son attachement au Seigneur, nous savons que cette famille d'Abraham a un rôle, un témoignage aux nations de la grandeur de l'Éternel. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte avec les 10 plaies, n'a-t-il pas à ce moment-là témoigné de sa puissance? Quand il a fait ouvrir la mer pour laisser fuir son peuple, n'a-t-il pas montré sa souveraineté sur la création? Dans l'histoire du peuple hébreu, le Seigneur n'a cessé de montrer qu'il est le seul vrai Dieu. Il le montre à son peuple, mais il le montre aussi par ce peuple aux autres peuples alentour. Ce que le Seigneur promet dans ce texte du Deutéronome, c'est qu'il bénira son peuple s'il suit ses commandements et que ce sera une opportunité de témoignage pour les peuples voisins. Être utilisé par Dieu pour témoigner de sa puissance. N'est-il pas déjà une récompense qui mérite quelques efforts? Dit autrement, être choisi par le Créateur pour témoigner de sa part, n'est-ce pas là une merveilleuse proposition que Dieu fait aux hommes? Alors, une bonne illustration de ça se trouve dans le livre de Daniel. Venons-en donc à la seconde partie de mon message, décryptons un récit d'obéissance à Dieu. Il existe deux récits d'une obéissance sans faille, dans les chapitres 3 et dans le chapitre 6 de ce livre. Ouvrons seulement le chapitre 3 pour voir la foi et le courage de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel. On ne va pas tout lire, alors laissez-moi vous raconter les 15 premiers versets, après quoi nous lirons le reste du chapitre. Donc le contexte. Les trois amis de Daniel sont exilés à Babylone, auprès du roi Nabucodonosor. Ce dernier, un jour, a eu l'envie de faire construire une statue d'or aussi haute que l'intérieur de la cathédrale de Clermont. Il ordonna à tout le peuple de se prosterner devant la statue et de l'adorer. Les amis de Daniel refusèrent de le faire. Les rois les convoqua et leur demanda poliment la raison de leur refus et leur rappela sévèrement qu'ils seraient jetés dans la fournaise s'ils n'obéissaient pas à cet ordre du roi. Sur quoi, sans frémir, les trois compères lui répondirent, et je lis donc à partir du verset 16, « Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de les ligoter et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissent firent périr les soldats qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à eux, ils tombèrent, tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda « Ne pas jeter 3 hommes, tout ligotés, dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté. »« Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. » Puis Nabucodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici !» Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, et que les vêtements n'avaient pas été endommagés, et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabucodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs, qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue que ce soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse de Dieu, du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi ces hommes. » Ainsi, ces 3 hommes auront obéi au commandement de Dieu au péril de leur vie et Dieu les en a sauvés. Plus encore, il les a utilisés pour un glorieux témoignage. N'avions-nous pas lu au verset 10 du Deutéronome qu'en cas d'obéissance du peuple au commandement de Dieu, je cite, « Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur. » Cette fidélité de ces 3 juifs envers Dieu intervient paradoxalement à un moment où la gloire d'Israël est au plus bas. Exilés, ville sainte à l'abandon, temple détruit. Ils préféraient donner leur vie, mais ne pas abandonner les commandements de Dieu. Et quel fut le résultat de leur fidélité? Une glorieuse victoire. Ils marchèrent au milieu de la fournaise avec le Fils de Dieu. Ils furent appelés hors de la fournaise pour être les témoins et les serviteurs du Dieu Très-Haut. Quel glorieux privilège. Et tout cela en réponse à leur obéissance. S'ils avaient suivi la foule et courbé leur tête afin d'échapper à cette terrible fournaise, combien n'auraient-ils pas perdu? N'y a-t-il pas dans ce récit une vérité que nous pouvons recevoir en tant que chrétiens? Il serait dommage de limiter notre lecture de ce chapitre à un simple happy end, ouf, Dieu les a sauvés. Dans un monde où chacun vide ses propres convictions avec plus ou moins de réussite, n'y a-t-il pas un puissant témoignage à montrer notre fidélité à Jésus-Christ? Il n'est pas forcément question de résultats aussi majestueux, effectivement, que ceux du chapitre 3 de Daniel. Que nous pouvons être convaincus, c'est qu'à notre tour, nous sommes le peuple de Dieu et que c'est un privilège que de prendre part à la manière dont il se fait connaître aux hommes. Pour cette troisième et dernière partie, voyons l'encouragement que Paul donne aux chrétiens de Rome au début du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Il y a continuité et rupture dans le message de Paul par rapport à ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Il y a continuité dans le conseil de ne pas se conformer au monde actuel, mais de rester fidèle à la volonté de Dieu. Cela, nous le voyons clairement dans le récit de Daniel, quand ses amis décident de ne pas adorer la statue d'or. Il y a continuité dans la personnalité de Dieu. Il ne change pas. Il est d'une immense bonté. Cela, nous l'avions constaté dans la série de bénédictions du Deutéronome. Mais il y a aussi rupture, car les alliances de l'Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas centrées sur la même chose. Quand Dieu demandait l'obéissance sans faille des Hébreux, il demande par l'intermédiaire de Paul un sacrifice vivant de la part des chrétiens. Il demande plus une recherche continue de la volonté de Dieu qu'une application du commandement. Ici, je crois que l'Éternel nous accepte tels que nous sommes, c'est-à-dire avec nos ratés, avec notre incapacité totale à être parfait. Ce qui compte, c'est l'attitude de foi, la volonté de vouloir continuellement chercher la volonté de Dieu. Mais au fait, dans ce verset, est-ce que vous savez ce que c'est un sacrifice vivant? Paul veut dire par là que cette offrande de soi n'est pas une chose à garder pour soi, cachée au fond de notre être. Cette offrande de nous est vivante, elle est visible, elle est en relation avec les autres. Et oui, encore un témoignage. Nous sommes donc appelés à rechercher la volonté de Dieu, à nous laisser modeler par lui, et à ce que cela ait un effet sur nos relations avec les autres. Nous témoignons ainsi de son œuvre en nous, de qui il est. Ainsi, notre fidélité à Dieu, notre volonté de le suivre et de lui obéir est récompensée par la possibilité d'être un témoin de notre entourage. Peu importe notre génération X, Y, Z, peu importe vos questionnements, le Seigneur veut parler de lui autour de nous. La manière qu'il a souhaité utiliser pour cela, c'est de passer par nous pour le faire. Cette proposition convaincante, la prochaine étape est de se laisser transformer par lui. Et si de votre côté, vous n'avez pas jusqu'alors décidé de faire de la place à Dieu dans votre vie, ouvrez-lui votre cœur et laissez-le vous parler. Je suis sûr qu'il serait ravi de pouvoir compter sur vous aussi pour parler autour de vous. Voilà. Remercions ensemble le Seigneur de la bonté qu'il nous fait en nous accordant d'être ses témoins. Et je prie. Père, nous savons que tu peux tout faire tout seul. Que dans l'absolu, tu n'as pas besoin de nous. Et pourtant, dans ton plan, tu as tout mis en œuvre pour que nous puissions être des témoins de toi, de ton royaume, autour de nous, à nos proches, à nos plus proches amis, à la famille. C'est un peu vertigineux de penser que tu veux nous utiliser, nous qui sommes si imparfaits, si faibles, si impropres peut-être à parler de toi, mais si parfaits. Mais pourtant, tu veux nous équiper, alors je te prie de, de recevoir notre attitude de cœur, de nous accorder, de nous donner tout ce que nous avons besoin pour parler du mieux possible de toi autour de nous, avec un message qui soit clair, qui donne envie.